À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Claudine Monteil, je suis femme de lettres, historienne, ancienne diplomate et féministe.
Premier épisode, le bain scientifique et cosmopolite. Bonsoir Claudine Monteil.
Bonsoir Caroline Brouet.
Vous signez tous vos livres sous le nom de Claudine Monteil, qui a été tout au long de votre parcours de diplomate votre nom, mais votre vrai nom est un nom de grande réputation dans le milieu scientifique. Vous n'êtes pas scientifique, mais femme de lettres et ancienne diplomate. Vous êtes peu connue du grand public, peut-être parce que vous avez passé votre vie avant tout à mettre en avant celle d'autres, à commencer par votre amie Simone de Beauvoir, que vous avez fréquentée pendant 16 ans et que vous n'avez jamais quittée réellement. Ce qui fait de votre vie un parcours unique et riche, c'est d'abord cette position de témoin. Témoin d'une époque et témoin de plusieurs mondes à cheval entre l'histoire des sciences, l'engagement féministe, ce qu'on appelait autrefois l'Est et l'Ouest. Vous êtes, Claudine Monteil, une femme d'action et de conviction, comme vous les aimez, je crois, portée par deux moteurs, la défense des libertés et un idéal de justice. Vous n'avez donc pas épousé la carrière scientifique de vos parents, vous n'êtes pas devenue chimiste, vous n'êtes pas devenue mathématicienne. Néanmoins, on peut dire que vous êtes le fruit d'un beau mélange, celui de Josiane et de Jean-Pierre, et peut-être aussi celui d'Irène Joliot-Curie, fille de Marie, prix Nobel de chimie engagée pour les droits des femmes, et de sa sœur cadette Ève, qui choisit pour sa part les lettres et la diplomatie, deux femmes auxquelles vous avez consacré plusieurs années de votre vie et de livres, Marie Curie et ses filles, et Ève Curie, l'autre fille de Pierre et Marie Curie, et il en sera question dans cette émission. Donc, c'est par la science et par la formation culturelle que vous avez reçue que nous allons commencer. Vous êtes née le 29 novembre 1949 sous le nom de Claudine Serre, fille de Josiane, chimiste, qui dirigea l'école normale supérieure de jeunes filles, et de Jean-Pierre, mathématicien, devenu l'un des mathématiciens les plus importants du siècle, médaille Fields, prix Abel, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, professeur honoraire au Collège de France. Claudine Monteil, grandir avec deux parents scientifiques, est-ce que ça prédestine ou est-ce que ça éloigne d'emblée de la science?
Cela dépend de la personnalité de l'enfant. Mais moi, ce qui m'a rapproché toujours de mes parents, c'est le fait de la notion de justice et de respect de l'autre. Dans le sens où, à la maison, depuis mon enfance, il y avait des hommes et des femmes, chimistes, mathématiciens ou mathématiciennes, de tout pays, de toutes conditions, et que donc c'était un peu les Nations Unies à la maison depuis mon enfance. Et l'idée, c'était que ces personnes, certains de ces mathématiciens et chimistes, étaient des personnes de grands talents, qu'ils ne se prenaient pas trop au sérieux, car la seule manière d'être prise au sérieux à la maison, c'était le talent, c'était l'intégrité intellectuelle. Ça, c'est la première chose qui a marqué ma jeunesse. La deuxième, c'est la notion de liberté, parce que je suis née en 49, c'est-à-dire au début de la guerre froide. Et la guerre froide, elle a marqué toute l'histoire de ma famille, puisque des mathématiciens, des chimistes, des physiciens ont été enfermés, victimes de brimades, en particulier en Union soviétique. Et donc, mon père s'inquiétait énormément de leurs conditions, et ma mère également s'inquiétait là-dessus. Enfin, ma mère ayant été directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles, elle a été au moment de la, elle a été d'abord sous-directrice, puis directrice adjointe, au moment de la décolonisation sous le général de Gaulle, et donc où l'arrivée de jeunes étudiants africains et africaines commençait à arriver dans le domaine scientifique à l'école normale supérieure de jeunes filles. Elle a été très heureuse et très fière que des Africains passent l'agrégation de chimie, des Africaines. Ces mêmes Africains sont repartis en Afrique dans le cadre de la décolonisation et occuper des postes importants pour la recherche dans les pays. Donc, ma passion, c'était d'abord l'autre, les autres, leur civilisation, les comprendre. Et pour les comprendre, il faut apprendre les langues.
Dans les mémoires d'une jeune fille rebelle, qui est un livre où vous vous racontez, et vous racontez aussi la rencontre de Simone de Beauvoir notamment, les premiers mots de ce livre sont « Je suis l'enfant de ma mère, l'enfant de son enfance ». Que voulez-vous dire ?
Je dois beaucoup à mon père qui a toujours soutenu ma mère.
Et on y viendra, bien sûr.
Oui, votre non, père ensuite. Je veux dire, je dois beaucoup à mon père qui a toujours soutenu et respecté ma mère pour sa volonté de faire de la recherche scientifique. Mais je suis d'abord l'enfant de ma mère parce qu'elle a véritablement souffert très jeune du fait d'être une femme et de vouloir devenir scientifique. Je m'explique. En 1948, elle est donc sévrienne, elle est agrégée, elle est reçue à l'agrégation de chimie. Mon père lui-même est reçu à l'agrégation de mathématiques, il se marie, elle va être assez vite enceinte de moi. Mais tout de suite, un des grands mathématiciens de l'époque l'invite à prendre un café et lui dit « Vous venez d'épouser un jeune mathématicien prometteur, alors maintenant, vous allez abandonner votre carrière et vous consacrer à celle de votre mari. » Ma mère a bu son café, s'est levée et lui a dit « Merci pour votre conseil que je ne suivrai pas. » Puis est paru « Le deuxième sexe » pendant qu'elle était enceinte de moi.
Grand livre de Simone de Beauvoir en 1949.
Oui, qui a été traduit dans le monde entier et qui a permis à des milliers, si ce ne sont des centaines de milliers de femmes, de changer de vie, de s'assumer et de réussir leur vie. Et j'ai eu toute ma vie durant, disons, les 30 premières années, entre 70 et 2000, des femmes qui pleuraient en me serrant la main parce que j'avais serré la main de Simone de Beauvoir et que la lecture du deuxième sexe avait changé leur vie.
Mais revenons donc au moment où vous étiez encore dans le ventre de votre mère.
Et donc, à ce moment-là, ma mère décide de poursuivre sa recherche scientifique et malheureusement, le mathématicien en question, qui est un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a presque eu raison. C'est-à-dire que ma mère a travaillé avec des membres de l'Institut du Radium, dirigé alors par Irène Joliot-Curie, et ma mère était très inspirée par Irène Joliot-Curie, qui avait été l'une des trois premières femmes membres d'un gouvernement français en 1936, sous Léon Blum, qui, imaginons tout de même ce que cela représentait à l'époque, en 1936, il y a trois premières femmes membres d'un gouvernement français, quand elles siègent en Conseil des ministres, elles sont les seules, entourées d'hommes, à ne pas avoir le droit de vote. Car ne l'oublions pas, Irène Joliot-Curie, prix Nobel de chimie, l'année précédente, grande scientifique, membre du gouvernement, n'a pas le droit de vote. Et même, toutes les difficultés lui ont été faites pour qu'elle ait un bureau. Donc, vous voyez que quand même, on revient de loin. Donc, ma mère avait été très marquée, adolescente, elle avait 14 ans quand Irène Joliot-Curie a été nommée ministre, et sous-secrétaire d'État, en fait. Mais vraiment, ça a été une inspiration pour elle. Donc, elle se retrouve avec des membres de l'Institut du Radium, qui seront son patron de thèse. Et là, elle essaye un certain nombre de produits, et c'est après-guerre, ne l'oublions pas, on est en 1952-53, et c'est après-guerre, la France se remet encore très difficilement de la recherche scientifique, ma mère prend les produits chimiques pour faire une expérience très importante, et tout explose dans son visage, tout explose dans sa main gauche, elle est gauchère, et elle va perdre la vue pendant quelques heures. Elle va souffrir dans des souffrances épouvantables. On est à une époque où il n'y a quasiment pas de médicaments. Enfin, je veux dire, où il y a, c'est pas du tout aujourd'hui. Enfin, cette histoire date d'il y a 70 ans. Et véritablement, ce sera une souffrance épouvantable. Elle aura des...
Et elle y laisse sa main. Elle y laisse une main.
Mais c'est pire que ça, c'est que, alors, elle y laisse la main gauche. Elle est gauchère. Mais surtout, elle aura eu plusieurs opérations, bien sûr. Elle sera sous morphine pendant assez longtemps, tellement c'était douloureux. Mais surtout, la main sera crispée, mais surtout, il y aura encore des éclats de verre microscopiques qui sont laissés dans sa main. Et j'ai passé ma vie à voir ma mère, de temps en temps, souffrir le martyre et mon père prendre une pince à épiler pour lui ôter des petits morceaux de verre microscopiques. Il n'arrivait pas forcément à les voir. Et ma mère au bord de s'évanouir de douleur alors qu'elle ne parlait pas de sa main et qu'à partir de ce moment-là, c'est un sujet tabou dont on ne parle pas. Pourtant, elle ne peut pas tenir un verre, elle ne peut pas couper sa viande. Enfin, je veux dire, sa vie est une femme avec un handicap qu'elle va cacher et dont elle ne parlera que quand je vais publier ce recueil de mémoires. Voilà. Alors, je suis marquée par cette histoire parce que, véritablement, à partir de ce moment-là, quand des scientifiques viennent à la maison, et que certains de ces scientifiques, je suis une petite fille, j'ai 5 ans, et il y a plein de mathématiciens qui viennent et qui veulent être aimables avec la fille du collègue. Et ma mère me dit, celui-là, il est antiféministe. Et ça, c'est la formule d'Irène Joliot-Curie. Ce n'est pas la formule de Simone de Beauvoir, c'est la formule d'Irène Joliot-Curie. Et à ce moment-là, la petite fille de 5 ans tourne le dos aux scientifiques qui est anti-féministe. C'est donc ma vraie identité, c'est attention, qui est anti-féministe.
Claudine Monteil, c'est aussi indirectement, ou même peut-être même justement directement, votre mère qui vous a mis sur les traces de Marie Curie et de ses filles auxquelles vous avez consacré tant de temps.
Alors, j'ai consacré près de 10 ans à Marie Curie et à ses filles après la mort de ma mère. Je n'aurais jamais osé écrire sur ces trois femmes avant sa mort. J'aurais eu l'impression d'empiéter sur son territoire, d'être indiscrète et de, n'étant pas scientifique, de n'être peut-être pas digne de ces trois femmes. Mais quand ma mère est décédée il y a maintenant 18 ans et j'ai publié plusieurs livres sur Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et sa sœur Hélène de Beauvoir, l'artiste peintre. Et vraiment, je rêvais d'écrire une biographie croisée de Marie Curie et ses filles.
Pourquoi croisée ?
Parce que les sœurs Beauvoir, qui est l'histoire de Simone de Beauvoir et de sa sœur cadette, sa sœur unique, enfin son unique sœur, l'artiste peintre Hélène de Beauvoir, qui sont deux femmes que j'ai connues, que j'ai aimées, comme des grandes-tantes.
Nous en parlerons mercredi,
oui,
ensemble.
Mais c'est pour dire simplement que ce livre est traduit dans une dizaine de langues et qu'il a été un très grand succès dans plusieurs pays.
Non, mais je voulais dire pourquoi Marie et ses filles, pourquoi le portrait ?
Justement, parce que, précisément, le livre d'une affection croisée entre deux sœurs, on me demandait si je voulais en faire d'autres, de même style, et Marie Curie, ma mère, avait bien sûr été marquée par Marie Curie, mais elle a été plus encore marquée par Irène Joliot-Curie. Et je dois dire que peu de temps avant de mourir, elle m'a dit qu'elle avait veillé le corps d'Irène Joliot-Curie. Elle n'a pas été seule à veiller le corps d'Irène Joliot-Curie, mais il y a eu toutes les anciens, les chercheurs se sont relayés toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures, debout, pendant que la foule passait pour rendre hommage à Irène Joliot-Curie. Et donc, elle m'a dit, mais tu sais, je suis l'une de celles qui a tenu debout. Et je lui ai dit, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Elle m'a dit, mais c'est rien, c'était la moindre des choses. Voilà, donc c'est pour vous dire que, véritablement, j'avais envie, et ensuite, j'avais envie de mieux comprendre ce monde scientifique. C'était aussi une manière d'écrire sur ma mère. Et c'était une manière, d'ailleurs le livre lui est dédié à sa mémoire, et c'était aussi parce que c'est un peu grâce au musée Curie qui n'arrêtait pas, quand je voulais l'écrire, de me dire, mais vous savez, la fille cadette, Eve Curie, elle est comme vous, elle a été fille de scientifique et elle a fait une carrière diplomatique. Il n'y a pas eu encore de biographie sur elle. Vous ne voulez pas regarder ? Tenez, on vous apporte les cartons. Et donc, il m'apportait des cartons uniquement sur Eve Curie, avec des lettres. Et je leur disais, est-ce qu'il y a une biographie sur elle ? Ah non, 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 il n'y en a pas. Mais ils n'osaient pas me demander d'écrire. Et puis, brusquement, un jour, je me suis dit, mais bien sûr, ce n'était pas facile d'être la fille de Marie et Pierre Curie. Et surtout que ce n'était pas facile d'avoir une sœur qui était une sœur aînée de 7 ans de différence et qui ne parlait que science avec leur mère. Donc, brusquement, ça m'a paru évident. Et j'ai passé près de 7 ans à travailler sur les archives d'Eve Curie parce que il n'y avait pas encore eu de biographie la concernant. Et je dois dire un mot particulier au fait que le musée Curie a été, sans le musée Curie, je n'aurais pas pu réaliser cette première biographie, et sans la famille Curie aussi, Pierre Joliot et Hélène Langevin, c'est-à-dire les petits-enfants de Marie Curie, les enfants d'Irène, qui m'ont ouvert leurs portes, leurs maisons, et ça a été une expérience extraordinaire que ma mère ne lira jamais.
Ève, fille de scientifique, Ève qui n'a pas embrassé de carrière scientifique, qui est devenue une femme d'action, une femme de conviction, qui avait, écrivez-vous, l'étoffe d'une héroïne pour la défense des libertés. Est-ce que, d'une certaine façon, mais toute proportion gardée, et votre modestie va nécessairement vous conduire à contredire ce que je vais dire, mais est-ce que vous pouvez vous identifier un peu à Ève?
Alors, à mon modeste niveau, je peux tout à fait m'identifier à Ève. Simplement, il faut rappeler que si Irène Joliot-Curie, à 17 ans, a eu une action remarquable sur le champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, ce qu'on appelle la Grande Guerre, puisqu'elle est allée avec les radios, les petites voitures de radio qu'on appelait les petites Curie, aider les chirurgiens à savoir exactement où ils devaient opérer, grâce aux premières radiographies, Ève avait, elle, était beaucoup plus jeune, elle avait 10 ans. Donc, la Première Guerre mondiale, ce n'est pas sa guerre, c'est la guerre de sa mère et de sa sœur aînée. Donc, quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, elle a vécu avec quelques hommes avant de se marier à 50 ans, et là, elle vit avec Philippe Barrès, juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et Philippe Barrès, fils de Maurice Barrès, était journaliste à Berlin. Et il a absolument côtoyé Hitler. Il a côtoyé, en tant que journaliste, pas sympathisant du tout, hein, mais en tant que journaliste, il a côtoyé Hitler, il a côtoyé tous les nazis, qui ne parlaient que des livres et de l'action d'un homme militaire français que les Français ne connaissaient pas, un certain Charles de Gaulle. Car quand Hitler est mort, quand il a été, il s'est suicidé, mais on a retrouvé sur sa table de nuit un livre du général de Gaulle en allemand. Donc c'est dire combien Philippe Barrès rentre en France et il dit, il s'attend à l'envahisseur, à ce que l'Allemagne envahisse la France, et il parle du général, il parle de Charles de Gaulle à Ève. Il dit c'est le seul qui pourra nous sauver. Et donc l'occupation arrive, Ève Curie part dans un bateau avec notamment Henri Bernstein, qui était son ancien ami. Elle arrive en Angleterre 3 jours après l'appel du 18 juin, qu'elle n'a pas entendu sur le bateau, car ne l'oublions pas, l'appel du 18 juin a été très peu entendu. Le 18 juin, il a été surtout entendu les jours suivants où il a été répété. Et donc, c'est le 23 ou 24 juin qu'elle est dans le bureau de De Gaulle, qui vient d'arriver lui-même à Londres. Il n'y a rien. Et elle est dans son bureau. Et il faut bien le dire qu'il y a très peu de monde qui rejoint la France libre et le général De Gaulle à ce moment-là, car les magistrats, les ambassadeurs feront allégeance à Pétain. Il ne faut pas l'oublier, il y a très peu de hauts fonctionnaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, lui dira que le nom prestigieux de Curie est fondamental pour lui. Et donc elle va commencer à faire des émissions à la radio, elle va être très active là-dessus, et ensuite il va l'envoyer pour faire un travail de fond aux États-Unis, et elle sera quand même la personne qui aura logé le plus à la Maison-Blanche dans l'histoire depuis la fondation des États-Unis. Elle est la personnalité française qui a le plus logé à la Maison-Blanche. Et il faut dire que juste avant-guerre, elle était devenue célèbre dans le monde entier par la publication de sa biographie sur sa mère, qui s'appelait Madame Curie, et qui avait été traduite en 1938-1939.
Vous êtes intéressable, je ne veux pas vous interrompre parce que vous êtes intéressable, évidemment, sur Ève Curie à laquelle vous avez donc consacré plusieurs années de votre vie et de livres. Mais je ne voudrais pas, Claudine Monteil, qu'on termine cette première émission sans parler, bien évidemment, de l'autre partie de votre famille et de votre éducation qui a été votre père, Jean-Pierre Serre. Quel portrait feriez-vous de Jean-Pierre quand vous étiez petite? Il était déjà réputé? Il partait déjà donner des conférences aux États-Unis, c'est peut-être aussi ce qui vous a conduit, on va y venir, à Princeton pendant quelques années. Mais quel portrait, déjà, feriez-vous de Jean-Pierre Serre?
D'abord, mon père, quand je suis née, mon père avait 23 ans, ce qui est jeune. Mon père est plus jeune que ma mère. Donc, Il s'amusait avec moi comme avec une petite sœur. Il avait un humour décapant. Donc nous nous amusions beaucoup, nous rions énormément. Et il se moquait tout le temps des personnes prétentieuses. Si quelqu'un avait l'air prétentieux, ça l'énervait. Ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième, c'est qu'il a eu la médaille Fields quand j'avais 5 ans. Donc, la médaille Fields, à la maison, il la rangeait dans un tiroir. Hein. Il n'en faisait pas, il n'était pas en train de se vanter de l'encadrer. C'était pas le style. Mais de temps en temps, quand il partait, ensuite, il est élu au Collège de France, j'ai 10 ans. Enfin, j'ai même moins que 10 ans. J'ai 6 ans. Et donc, quand il part au Collège de France, moi, je sors la médaille Fields et je m'amuse au crayon à faire des cercles avec la médaille Fields. Et ensuite, je la range, bien sûr, dans le tiroir. Donc, la médaille Fields, pour moi, c'était un objet de mon enfance. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'il soutenait toujours ma mère sur le plan scientifique pour sa recherche. Et il ne prenait une décision que si cela ne contrecarrait pas la carrière scientifique de ma mère. Donc, c'était un soutien. Elle a eu un soutien extraordinaire. Et très souvent, quand on voit l'histoire des femmes, il y a souvent eu un homme dans la famille qui respectait cette femme. Je ne parle pas de maintenant, je parle d'il y a 50, 70 ans, 100 ans. Et d'autre part, c'était lui qui m'a beaucoup soutenue pour que j'aille en URSS, on en parlera après. Mais d'autre part, le jour de mes 15 ans, il m'a offert deux cadeaux. Le premier, c'est une des premières machines à calculer les plus sophistiquées qui soient. Et vous imaginez que pour une jeune fille de 15 ans à l'époque, c'était pas vraiment le cadeau de mes rêves. Et ma mère le lui a reproché et il a dit, mais non, Claudine m'a dit qu'elle était ravie. Oui, j'étais très diplomate ce jour-là de mes 15 ans.
Déjà,
je lui ai dit, oh merci papa, c'est formidable. Et puis je l'ai rangé rapidement. Mais ensuite, il m'a fait un deuxième cadeau. Il m'a dit, maintenant, on va aller dans le salon. On va dans le salon où il y a énormément de livres et il me sort les deux exemplaires du deuxième sexe. Et je lui dis, enfin papa, je sais tout là-dessus sur le droit des femmes, enfin avec maman j'en parle tous les jours, enfin je n'ai pas besoin de lire ça. Et il me dit, si tu as besoin de lire le deuxième sexe parce que tu ne sais pas ce qu'il t'attend. Et donc, j'ai pris un air un peu jeune fille, un peu...
Détachée,
enfin dans le genre, je sais tout, bien sûr. Moi, à 15 ans, on sait souvent tout. Et donc, je l'ai lu. Et bien entendu, je n'ai pas forcément tout compris à 15 ans. Mais enfin, l'image n'était pas très gaie quand même de ce qui m'attendait. Et puis ensuite, je me suis plongée dans les mémoires de Simone de Beauvoir qui a changé ma vie.
Donc d'une certaine façon aussi, votre père avait les pieds sur terre. Ça n'était pas un chercheur dans son monde abstrait de la recherche fondamentale en maths.
Il ne faut pas oublier que ma grand-mère, la mère de mon père, a été pharmacienne. Elle a passé des diplômes à Montpellier, universitaire, entre les deux guerres. Je veux dire, ce n'était pas évident pour une femme de l'époque. Et que mon père s'est plongé dans les maths grâce aux livres de ma grand-mère. Mon père a toujours dit « les femmes sœurs, ce sont des sacrées femmes ». Et ça, ça lui plaisait. Et sa mère avait été une sacrée femme. Sa mère a fait un an de maths à l'université pour son plaisir, comme Simone de Beauvoir. Ce qu'on ne raconte jamais, on oublie que quelques femmes aimaient les maths, mais n'osaient pas en faire plus à l'époque. Donc, en fait... Il a eu une mère qui a été très courageuse, toute jeune.
Est-ce que vous le voyez travailler à la maison? Est-ce qu'il faisait ses recherches enfermé dans son bureau?
Non, parce que j'ai vu ça toute ma jeunesse.
Non, mais est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez faire.
Ah oui, si je voyais...
Quand vous étiez petite, vous voyiez travailler.
Le seul problème de la jeunesse que j'ai eue, c'est que je ne pouvais inviter personne à la maison et que je devais, en rentrant du lycée, marcher sur la pointe des pieds.
Parce qu'il ne fallait pas déranger votre...
Parce qu'il ne fallait pas un bruit dans l'appartement, puisque mon père faisait ses recherches mathématiques à la maison. C'est pas évident pour une enfant et une adolescente, car j'ai eu ça jusqu'à l'âge de 20 à 21 ans.
Et puis, il y avait les mathématiciens soviétiques que Jean-Pierre Serre, votre père, recevait à Paris, qui étaient des dissidents et qui vous a initié, qui vous a éveillé à la conscience politique.
Oui, et il y avait un autre mathématicien plus âgé que mon père, pour lequel mon père avait une affection particulière, qui était Henri Cartan. Et Henri Cartan était très engagé pour les droits des mathématiciens emprisonnés ou victimes de brimades. N'oublions pas non plus qu'à la même époque, l'antisémitisme en URSS était très flagrant et que les mathématiciens juifs ne pouvaient pas passer leur doctorat d'État. Comme ça, ils ne pouvaient pas avoir de poste parce que juifs. Donc il y avait aussi tout cet antisémitisme qui ressortait plus encore. Et donc j'ai été élevée effectivement dans cette notion de liberté. Et je dois dire que ce que j'ai ressenti, c'est que les mathématiciens étaient une grande famille. Mais j'aimerais raconter pourquoi j'ai pu persévérer dans la diplomatie et ne pas me laisser impressionner pendant la guerre froide grâce aux mathématiciens. J'ai eu un moment de très grande complicité avec mon père qui était quand il allait dans les petites réunions du groupe Bourbaki, qui est un groupe de mathématiciens, et je l'accompagnais, parce que c'était souvent pendant les vacances scolaires, et je l'accompagnais dans une propriété dans le Midi, à Cabris, qui s'appelait la Messuguère, où Malraux, Gide avaient logé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des bibliothèques magnifiques, et il y avait une petite maison de côté. Et les membres de Bourbaki réécrivaient des livres de mathématiques, en particulier le soir, dans cette petite maison, et cela m'a marqué pour la diplomatie. Ils s'engueulaient et ils se disputaient toute la soirée jusqu'à minuit, 1h du matin, pour réécrire en disant « ta démonstration est mauvaise, mais non, je te dis que c'est la tienne qui est mauvaise, c'est pas grave ». Ils rigolaient, ils riaient après, mais c'est comme ça que les mathématiques se sont créées, que les livres de Bourbaki. Et moi, j'avais 17 ans et j'étais chargée. Je l'avoue, à 17 ans, ça n'est pas bien, mais ça fait rien. J'étais chargée d'apporter les bouteilles de whisky, de Porto, de Grand Marnier, et je servais discrètement ces messieurs qui hurlaient dans tous les sens. Ils n'étaient pas nombreux, hein. Mais c'était des copains qui hurlaient entre eux. Et le lendemain matin, ils riaient comme des fous au petit déjeuner. Ils n'étaient pas du tout fâchés. Mais c'est pour vous dire qu'ensuite, quand je suis entrée dans la diplomatie pendant la guerre froide sur les pays de l'Est communistes, où on me criait dessus parfois, où on me menaçait, ça ne m'impressionnait absolument pas.
Merci Claudine Monteil. Justement, ça sera le sujet de notre deuxième entretien de demain, votre apprentissage de la diplomatie et la voie diplomatique que vous avez choisie pendant la guerre froide. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Julien Girard, réalisation Séverine Cassard, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.